Bonjour, le tourisme suisse victime du franc fort. Les hôteliers s'attendent à une saison hivernale maussade en raison de la cherté des vacances en Suisse pour les touristes étrangers, alors que le nombre de nuitées a déjà reculé cet été. Nous ferons le point avec Rouven Guessa et nous recevrons Richard Kempf, responsable du secteur tourisme au secrétariat d'État à l'économie. L'actualité du jour, c'est aussi la BNS qui dégage un bénéfice consolidé de 5,8 milliards de francs sur les trois premiers trimestres de l'année. Nous parlerons aussi de la grève des aides-soignantes genevoises, de la cybermobilisation des anti-G20 et du dernier rapport de l'inspection fédérale de la sûreté nucléaire. Midi à l'ombre des rivières, c'est le nom d'un spectacle inclassable à voir. Dès ce soir au Hall de Sierre en Valais, un jeu de piste grandeur nature pour 15 spectateurs qui partent à la rencontre de différents personnages prisonniers de leur histoire. La mise en scène est signée Anne Salamin, comédienne et directrice de la compagnie Opale. Elle sera notre invitée à la fin de ce journal. La grisaille devrait se dissiper cet après-midi et le soleil sera de retour avec des maximales de l'ordre de 17 degrés en pleine. Des nuages pourraient tout de même jouer les troubles faites dans la région genevoise et sur le Jura. Même type de temps prévu pour demain, mais les passages nuageux seront plus nombreux en seconde partie de journée, nous dira Stéphanie Koller. L'été a été dur et l'hiver ne s'annonce pas mieux. Le tourisme helvétique souffre de la crise du franc fort et malgré les efforts de Suisse Tourisme pour promouvoir la saison hivernale, les perspectives ne sont pas réjouissantes. Vous avez assisté à la conférence de presse de Suisse Tourisme ce matin à Zurich, Rouven Guessa.
Oui, conférence de presse organisée dans un hôtel 4 étoiles sur les hauteurs de Zurich. En temps normal, l'endroit offre une vue imprenable sur toute la ville et là, aujourd'hui, pas de chance. Le brouillard zurichois ne permettait pas de voir au-delà des jardins. Mais la grisaille était de circonstance. Vu les chiffres présentés ce matin par Suisse Tourisme, recul de 2,7% des nuitées cet été entre les mois de juin et d'août. La baisse est de 1,7% depuis le mois de janvier en comparaison avec les chiffres de l'an dernier. Le directeur de Suisse Tourisme a même parlé d'été effrayant avec la parité qui a été atteinte entre le franc suisse et l'euro. Et le secrétariat d'État à l'économie qui était aussi présent ce matin, le SECO, n'attend pas la reprise avant 2013.
Et comment s'annonce la saison d'hiver, Rouven ?
Alors pas beaucoup mieux, hein. Déjà il y a l'inconnu de la neige, grande inconnue traditionnelle, et le SECO s'attend à une baisse de 2,6% des nuitées sur la saison. Il faut savoir que le trois quarts des étrangers qui réservent des hôtels en Suisse proviennent des zones problématiques, de la zone euro, mais aussi des États-Unis avec le dollar ou du Royaume-Uni avec la livre. Et si Suisse Tourisme a pu en partie sauver les meubles jusqu'ici, eh bien c'est grâce aux nouveaux marchés et des pays comme le Brésil, la Russie, l'Inde ou la Chine. C'est vers ces marchés que les responsables de la branche veulent désormais développer leur promotion pour continuer à attirer des touristes.
Rouven Guessa en direct de nos studios de Zurich, à vos côtés Richard Kempf, bonjour.
Bonjour.
Responsable du secteur tourisme au SECO, secrétariat d'État à l'économie, vous tablez sur une baisse de 2,6% des nuitées pour la saison d'hiver à venir. C'est encore et toujours la faute au franc fort.
Oui, la raison principale, c'est le franc fort qui terrorise la compétitivité de la Suisse au niveau des prix. Et pour la saison d'hiver, c'est vraiment dur. Ça va être dur et difficile avec une diminution des nuitées de 2,6%.
Quelles seront les conséquences pour les acteurs touristiques ? On peut s'attendre à des licenciements, des fermetures même carrément ?
Oui, c'est pas une crise grave à ce moment-là. On a, en termes absolus, on a des nombres de nuitées qui sont raisonnables, mais on a une diminution et ça va être dur pour des hôtels, surtout dans les régions alpines.
L'autre inconnu, c'est l'enneigement. Si on manque de neige, ça pourrait être là carrément catastrophique.
Oui, ça pourrait être vraiment catastrophique si la neige n'arrive pas, mais on ne sait jamais. Hein.
Les stations de basse et moyenne montagne sont évidemment particulièrement exposées aux caprices de la météo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, pour les soutenir ?
Oui, à la court terme, c'est difficile. Ils font faire du marketing, ça c'est clair. Et à la long terme, ils font essayer de diversifier la demande. En été, par exemple, pour la saison d'été. Mais c'est pas facile, c'est clair.
Vous tablez sur une reprise en 2013. Le franc risque pourtant d'être toujours aussi haut et fort. Sur quoi vous fondez finalement ces prévisions ?
Oui, pour 2013, on attend une normalisation des cours d'échange, surtout avec le cours d'échange de le franc suisse vers l'euro. On attend une normalisation, ça veut dire un cours d'échange avec l'euro environ 1,30 et 1,40. Et ça, c'est une amélioration pour le tourisme suisse.
Quand on regarde les chiffres dans le détail, on voit que les touristes européens sont en recul, mais les pays émergents sont en forte progression. Brésil, Russie, Inde, Chine. Ce sont finalement ces pays-là qui sauveront, on va dire, le tourisme suisse.
Oui, c'est juste. Les pays comme la Chine ou l'Inde, ce sont vraiment les sauveurs du tourisme suisse. Ils gagnent d'importance. C'est très important d'être présent maintenant et de faire du marketing dans ces marchés-là parce que ça, c'est très utile et très important pour, oui, pour, on peut vraiment dire pour sauver le tourisme suisse dans les années prochaines.
C'est une clientèle quand même très différente, on va dire, par rapport aux touristes européens. Quelles sont les adaptations nécessaires? Qu'est-ce qu'on doit changer?
Oui, ça, ils font être avoir les connaissances nécessaires de ces marchés. Ils font avoir des représentants dans ces marchés pour le marketing. Et il faut aussi changer les offres. Ils font avoir la nourriture pour ces touristes-là. Ils font avoir les connaissances des langues pour parler la Chine, pour parler avec les Chinois. Et ça, c'est un processus qui a commencé, mais on a beaucoup à faire maintenant.
Merci beaucoup Richard Kempf d'être venu quelques minutes en direct dans ce journal, responsable du secteur tourisme au SECO, invité par Rouven Guessa. Bon après-midi à vous, merci.
Merci à vous monsieur.
Et en parlant d'économie, le nombre d'exploitations et le revenu des paysans continuent de baisser en Suisse. C'est ce qui ressort du rapport agricole 2011 présenté ce matin à Berne. Mais le document n'est pas seulement porteur de mauvaises nouvelles. On y apprend aussi que le commerce extérieur évolue positivement et que certaines émissions nocives ont diminué ces dernières décennies. Et depuis le mois de mai dernier, les autorités fédérales planchent sur la stratégie climat pour l'agriculture. Romain Cliva.
Oui, pour sa première apparition officielle, le nouveau directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, Bernard Lehmann, aura soufflé le chaud et le froid. Au chapitre du froid, on notera la baisse continue du nombre d'exploitations agricoles. En 2010, elles étaient environ 1000 de moins que l'année précédente. Quant au revenu par exploitation, il a aussi diminué. Il ressort également de ce rapport que le temps de travail des agriculteurs est nettement supérieur à la moyenne. Une grande majorité d'entre eux travaillent plus de 50 heures par semaine pour une durée de vacances moyenne de 8 jours par année. Au chapitre des bonnes nouvelles, on notera l'augmentation des exportations qui se poursuit, principalement à destination de l'Union européenne. Et la souveraineté alimentaire de la Suisse s'est maintenue malgré l'augmentation de la population. Le taux d'auto-approvisionnement dépasse les 60%. En résumé, l'augmentation de la production, a permis de faire face à l'augmentation de la population. L'Office fédéral de l'agriculture, enfin, a également présenté sa stratégie climat pour l'énergie. Elle vise notamment une baisse des émissions de gaz à effet de serre et implique non seulement les producteurs, mais aussi l'industrie.
Romain Cliva en direct de nos studios du Palais fédéral à Berne. À vos côtés, Dominique Colli, bonjour.
Bonjour.
Vice-directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, en quoi consiste concrètement votre stratégie climat pour l'agriculture?
Il s'agit de se préparer au futur. Le futur sera caractérisé par un climat probablement plus difficile, avec des périodes de sécheresse, des périodes de fortes précipitations, davantage de problèmes de maladies, d'insectes. Donc il faut que notre agriculture puisse continuer à remplir sa mission, qui est de nourrir la population, continue à apporter aussi des prestations en faveur de la qualité de notre pays, et ceci à travers des mesures qui lui permettront de s'adapter au changement climatique d'une part, et d'autre part de réduire ses émissions qui péjorent le climat.
Est-ce que ces mesures pour le climat pourraient pousser les prix à la hausse?
Alors écoutez, pas forcément. Je pense qu'il faut nuancer. Le climat peut avoir des conséquences très fortes sur l'offre. On a vu au cours des derniers mois des périodes de sécheresse, par exemple en Russie, qui se sont traduites par un stop des exportations de céréales. On a vu des inondations actuellement en Asie qui vont péjorer le commerce du riz et faire monter les prix. Donc c'est plutôt lié à cela que le climat peut influencer les prix. Et puis Alors ce point-là a fait l'objet aussi d'une intervention de notre nouveau directeur qui insiste beaucoup sur la vérité des prix. Il faudra à l'avenir que les coûts des mesures pour le climat puissent être intégrés dans le coût des produits.
La sortie du nucléaire, c'est une chance pour les agriculteurs qui produisent aussi de l'énergie.
Alors là, nous sommes en train de calculer le potentiel de production énergétique de l'agriculture. On sait que ce potentiel est important au niveau, par exemple, du solaire, par exemple des biogaz, d'autres formes encore de production d'énergie. Donc, je pense que toute forme d'énergie qui économiquement est valable et qui permet d'économiser des carburants fossiles mérite en tout cas d'être analysée et si possible concrétisée.
Merci beaucoup Dominique Colli d'être venu quelques minutes en direct dans ce journal, vice-directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, invité par Romain Cliva. Bon après-midi à vous, merci.
Bon après-midi.
Les centrales atomiques suisses sont sûres. C'est l'inspection fédérale de la sécurité nucléaire qui l'affirme aujourd'hui à l'occasion de la publication de la troisième étude sur l'accident de Fukushima. L'IFSN souhaite cependant tirer toutes les leçons de la catastrophe japonaise du 11 mars dernier et améliorer encore la sécurité des centrales suisses avec 37 points de réflexion. Pascal Jeannera.
Oui, l'IFSN tire les leçons de Fukushima pour la troisième phase. La première, ce fut les mesures d'urgence qui ont mené notamment à l'amélioration de l'approvisionnement en eau de refroidissement de la centrale de Mühleberg. La deuxième phase aura été l'analyse approfondie de l'accident de Fukushima, publiée en août. Aujourd'hui, il s'agit pour l'IFSN d'identifier le potentiel d'amélioration de la sécurité en Suisse. Et pour cela, 37 points de réflexion ont été travaillés en matière de gestion de crise, de culture de sécurité ou encore de mise à profit de l'expérience. Selon leur urgence ou leur importance, ces points seront intégrés dans un plan d'action 2012-2015. Ces mesures sont importantes dans la perspective de la sortie progressive du nucléaire décidée par les chambres fédérales et le Conseil fédéral, car les centrales seront mises hors service avant tout en fonction de leur degré de sécurité, qui sera donc évalué par l'IFSN, l'organe dont l'indépendance des milieux nucléaires préoccupe le Conseil fédéral. Alors qu'il nommera d'ici la fin du mois les nouveaux membres du Conseil de l'IFSN, le Conseil fédéral vient de fortement élever les exigences d'indépendance de ses membres.
La Banque nationale suisse a dégagé un bénéfice de 5,8 milliards de francs au cours des trois premiers trimestres de l'année. La BNS a subi les effets du franc fort, essuyé des pertes de change, mais elle a pu faire des plus-values sur l'or. Bonjour Yves Longchamp.
Bonjour.
Vous êtes économiste à la Banque Pictet. C'est grâce au lingot finalement que la BNS est en mesure de publier d'aussi bons résultats aujourd'hui.
Oui, entre autres. Alors évidemment, l'or a bien contribué à la performance, enfin disons au profit de la BNS, puisqu'elle a réussi à emmagasiner 5 milliards de francs. Mais il y a eu également deux autres éléments. Premièrement, des gains en capitaux qui ont été réalisés sur tous les instruments à taux fixe, donc les obligations gouvernementales. Et puis finalement, l'affaiblissement du franc suisse a quand même bien aidé.
Vous diriez que la Banque nationale suisse a fait finalement du bon boulot ?
Écoutez, je crois que le travail de la Banque nationale suisse avant tout est d'avoir un taux d'inflation qui reste en dessous de 2%, plus que véritablement de faire des bénéfices. Donc de ce point de vue-là, elle respecte toujours son mandat puisque le taux d'inflation reste faible.
Pour la fin de l'exercice, la BNS se montre très prudente en évoquant des provisions à reconstituer. Prudence justifiée selon vous ?
Oui, je pense que la prudence est vraiment de mise en ce moment. On se rappelle qu'au trimestre précédent, elle avait essuyé une perte d'environ 10 milliards. Aujourd'hui, elle a un bénéfice de plus de 5 milliards. Donc on a une volatilité extrême dans les résultats de la BNS. Et je pense que c'est tout à fait approprié d'attendre la fin de l'année et puis de voir si la situation se stabilise pour distribuer ou non ou pour reconstituer les réserves.
La Confédération et les cantons espèrent recevoir leur part de redistribution des bénéfices. C'est encore envisageable ou ils peuvent faire une croix dessus ?
Écoutez, je pense que encore une fois, la BNS va regarder la situation, déjà le résultat à la fin de l'année, et puis la situation si on a un petit peu plus, disons, des perspectives plus roses en fin d'année pour 2012. Et à ce moment, on verra si la BNS distribue ou non. Je pense en tout cas que la Confédération et les cantons doivent faire attention et imaginer qu'elles pourraient ne rien recevoir cette année.
La BNS est intervenue pour lutter contre la force du franc en fixant notamment un cours plancher d'un franc 20 pour un euro. Elle va devoir tôt ou tard payer le prix de cette intervention ou bien pas forcément ?
Écoutez, tout d'abord, il y a un prix direct, c'est simplement au niveau de la valeur de ces réserves de change. Si ce taux se maintient, alors à ce moment, la valeur du franc suisse va rester stable vis-à-vis de l'euro, ou même on peut espérer que le franc suisse baisse. Il ne faut pas oublier que ce niveau de 1,20 reste quand même un niveau élevé. Le franc suisse reste cher. Or, historiquement, lorsqu'une monnaie ou une devise est chère, elle a tendance à se déprécier, ce qui pourrait donc générer, si c'est le cas, générer de nouveaux bénéfices pour la Banque nationale. Donc, de ce point de vue-là, normalement, on pourrait espérer que la BNS génère à long terme des bénéfices. Maintenant, le deuxième point qui est probablement plus crucial et qui correspond à son mandat de long terme, c'est justement l'impact sur le niveau des prix. On sait que le bilan de la BNS a explosé et il y a donc des risques peut-être à long terme d'inflation. C'est à mon avis là que le gros problème réside, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de raison d'être inquiet au niveau de l'inflation vu qu'elle reste extrêmement faible.
Merci beaucoup Yves Longchamp d'être venu en direct dans ce journal, l'économiste à la Banque Pictet, invité par Pascal Bénard. Bon après-midi à vous, merci.
Merci, au revoir.
Les grandes puissances se retrouvent jeudi pour un sommet du G20 à Cannes où l'Europe doit présenter son plan anti-crise. Bruxelles demandera notamment aux pays émergents d'agir de leur côté pour éviter une nouvelle récession. Opposés au sommet, les no-G20 et les indignés comptent faire entendre leur voix du côté de Cannes, Magali Philippe.
Oui, la mobilisation contre ce sommet s'organise. Elle passe bien sûr par le net et les réseaux sociaux, les outils de communication de prédilection des indignés. Alors sur Twitter, ce sont les hashtags, soit les mots-clés no-G20 et G99 qui permettent de suivre ces anti-G20. Contactée à travers le site de microblogging, Cécile Bréon, une indignée de Quimper, nous explique pourquoi elle se rend à Cannes.
Le premier message, il est très simple, c'est parce que le G20 est illégitime et ce ne doit pas être 20 pays qui décident pour l'ensemble des peuples sur Terre. Voilà. Donc on y oppose le G99, nous sommes les 99%, on ne peut pas laisser les 1% décider pour nous tous.
Et la sécurité sera comme à chaque sommet une priorité pour ce sommet-ci de Cannes. Ces G20 ont en effet souvent été les lieux d'affrontement entre la police et les manifestants. Mais pour Cécile Bréon, ce n'est pas une crainte.
Oh non. Moi, personnellement, moi, je crains pas l'affrontement parce que nous dans les actions dans lesquelles nous nous inscrivons, c'est vraiment de non-violent. On dit ça quelquefois pour trier un peu les gens qui ont envie de participer. Il faut être prêt à pouvoir faire des embrassades à un CRS qui pointe une matraque vers vous. Quoi.
Des embrassades à un CRS des indignés européens au sommet du G20, et bien c'est à Cannes dès jeudi.
Magali Philippe de notre rubrique multimédia. À Genève, les aides-soignantes des hôpitaux universitaires sont à nouveau en grève depuis 7h ce matin et pour une durée de 3 jours. Elles s'étaient déjà mobilisées mi-octobre pour demander une réévaluation de leurs fonctions. Le Conseil d'État devrait se prononcer mercredi sur leurs revendications. Manuela Catani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-secrétaire général du syndicat CIT. Sur les 1100 aides-soignantes que compte les HUG, 150 sont en grève aujourd'hui. C'est pas vraiment représentatif ?
Non, c'est très représentatif. C'est une bonne reprise de grève ce matin. 150 grévistes comme lors des deux jours précédents. Le nombre augmente dans la matinée et dans l'après-midi.
Pourquoi vous remettre en grève aujourd'hui alors que le Conseil d'État doit se prononcer mercredi ? Les patients sont forcément pénalisés même si le service minimum est assuré.
Se remettre en grève a été un choix très clair de la part des aides-soignantes parce que il ne s'agissait pas d'attendre tout simplement la réponse du Conseil d'État sans tenter de faire pression de manière forte et significative parce qu'il faut aussi savoir que ceci va faire bientôt 2 ans que leur cahier des charges a changé, que leurs responsabilités sont plus importantes, mais le salaire n'a pas suivi.
Vous demandez donc une réévaluation de fonction, vous venez de le dire, parce que cette fonction a beaucoup évolué ces dernières années. Vous pouvez nous donner des exemples concrets ?
Des exemples très simples et concrets. Les aides-soignantes sont les personnes qui passent le plus souvent auprès des malades et désormais, elles sont devenues le pivot de la relation et du lien entre le malade et l'équipe multidisciplinaire, les infirmières et les médecins. C'est un changement très important.
Vous dites aussi que le métier est devenu plus pénible, que la charge de travail a augmenté, vous diriez d'une manière générale, que les aides-soignantes sont surmenées ?
Oui, ils sont surmenés, mais le reste du personnel hospitalier également. Ce qui entre aussi en ligne de compte, c'est le métier est plus lourd parce que d'une part, il y a le vieillissement de la population et il y a de plus en plus de personnes âgées dans l'hôpital. Et il y a également le fait que la durée des séjours est raccourcie dans les hôpitaux, ce qui implique une intensité du travail, une intensité des soins sur le peu de jours où les patients restent à l'hôpital. Ceci a un impact très fort sur l'activité des aides-soignantes parce que ce sont elles qui préparent les arrivées et les sorties d'hôpital.
Au lieu de réévaluer la fonction, on devrait peut-être embaucher finalement plus d'aides-soignantes, non ?
Mais bien évidemment, en tant que syndicaliste, je peux vous dire que il faut absolument augmenter l'effectif dans plusieurs départements et services des UGE. D'ailleurs, en décembre 2009, les syndicats avec le cartel intersyndical des services publics et du secteur subventionné, nous avions fait des analyses très précises sur le manque d'effectifs dans plusieurs services de l'hôpital. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que ces jours, le personnel constate que les directives de service minimum prévues par la direction, en fait, elles concernent l'effectif de tous les jours. Donc le personnel prend conscience qu'il est tout le temps en service minimum et que ceci pèse bien évidemment sur la surcharge et sur le stress. Donc les discussions vont bon train également pour reprendre des dynamiques de lutte par rapport à l'augmentation des postes et des effectifs.
Merci beaucoup Manuela Catani d'être venue quelques minutes dans ce journal, co-secrétaire générale du syndicat CITE, invitée par Sylvie Belzer. Bon après-midi à vous, merci.
Le 12-30, David Racana.
Des textes d'Éric Masseret, lauréat du prix des auditeurs RTS 2011. Une mise en scène signée Ansa Mallamin, comédienne et directrice de la compagnie Valaisanne Opale. Midi à l'ombre des rivières est une création qui se présente comme un jeu de pistes pour les 15 spectateurs qui partent à la rencontre des personnages prisonniers de leur histoire. Yves Terrani a suivi les dernières répétitions avant la première qui sera donnée ce soir au Hall à Sierre. Écoutez.
Tenez, c'est une bille.
Merci.
Elle est jolie, non ? On s'est déjà rencontrés, non ? De toute façon, je ne sais pas. Je ne me souviens pas des gens. Je ne me souviens de personne. Plus exactement, je ne me souviens pas des visages. Alors, si je ne reconnais pas votre visage, que reste-t-il de votre personne ? La voix ? Un détail ? Une cicatrice ? Une tache de naissance ? Des yeux particuliers.
Bon, tu connais le scénario, un diagnostic de merde, espoir, illusion, des méta partout. Je l'ai donné, oui. Je lui ai donné ce pentobarbital parce qu'elle le voulait. Et parce qu'elle ne pouvait plus bouger. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait, je te le demande. Ah, je sais, il y a les gens pour, ceux qui sont contre. Jacques Maître, je suis comédien professionnel. J'enseigne également au conservatoire et au collège de Genève le théâtre.
Qu'est-ce qui est le plus difficile dans cette pièce ?
Alors, ce qui est très difficile, mais en même temps absolument passionnant en tant qu'acteur, c'est d'être confronté au regard du spectateur comme à celui d'un partenaire, en fait. Donc, l'état de concentration dans lequel il faut rentrer, puis essayer de créer cette complicité continuelle avec le spectateur, qui n'est pas séparé de nous comme dans un spectacle habituel par un quatrième mur. On est vraiment totalement en interaction avec lui.
C'est aussi une extraordinaire performance de mémoire. Il faut savoir un texte qui est relativement long.
Oui, alors ça, bon, en général, on pense que c'est un gros problème pour les acteurs. Finalement, si on s'y prend assez tôt, c'est quelque chose qui rentre. Après, bon, la proximité de l'autre fait qu'effectivement, on peut être plus sujet à des blancs, je dirais, que dans un spectacle traditionnel, parce que le regard de l'autre peut plus nous déstabiliser. Donc c'est vrai que dans ce sens-là, il faut être très concentré, en fait. Peut-être plus que dans un spectacle habituel, je dirais.
Mon amour et moi, on s'envoie des SMS enflammés.
Même quand on est dans la même pièce.
Ça nous fait rire comme des bossus. Mon amour et moi, on trouve que la technologie nous tient à distance l'un de l'autre.
Alors on fait des exercices d'extinction, de portable.
Quelques heures sans... On se regarde et on réalise...
Qu'on est là, côte à côte.
J'aurais pas dû. Je sais, mais j'ai pas pu me retenir.
Un reportage signé Yves Terrani. Bonjour Anne Salamin.
Bonjour.
Comédienne et directrice de la compagnie Valaisanne Opale en direct de nos studios de Sion. Comment elle est venue l'idée de monter ce spectacle-là ?
Eh bien, Éric Masseret m'a montré des textes qu'il n'avait pas encore publiés.
Et comme ils étaient écrits, ces deux textes, autour du même principe, je m'est venu à l'idée que ce pouvait être le point de départ d'une pièce de théâtre. Donc je lui ai suggéré de poursuivre la démarche, d'écrire encore des monologues, parce que c'était des monologues. Et petit à petit, le principe a pris forme, les textes sont arrivés, on les a soumis au jeu pour voir si ils étaient vraiment efficaces. Et du jeu à l'écriture, voilà, le spectacle est né.
Si on comprend bien, les personnages veulent que les spectateurs les ramènent dans le monde des hommes, c'est ça ?
On pourrait dire ça, oui, parce que ce sont des personnages qui sont restés coincés. Ils ont vécu un événement qui les a éloignés du monde des hommes. Et le spectateur est pour eux un moyen de revivre, de s'interroger à nouveau sur cet événement et peut-être de trouver une certaine grâce, une rédemption et de rejoindre le monde des hommes.
C'est un spectacle vraiment hors cadre, inclassable, on l'a dit. Vous pensez que les spectateurs, ils vont jouer le jeu ?
Oui, alors il faut dire que nous ne sommes pas les inventeurs de ce principe. C'est Walter Manfrey, un metteur en scène italien qui travaille sur le théâtre de la personne en Italie, qui est venu diriger le collectif ITER en Suisse, collectif dont j'ai fait partie. Le collectif ne travaillant plus autour de ce genre de principe aujourd'hui, on a repris le flambeau. Et oui, on sait par expérience que le public joue le jeu différemment dans chaque canton. Ça dépend un peu de...
En Valais, ils sont comment ?
Oui, ils réagissent énormément. En général, ils réagissent, oui, beaucoup.
C'est la première fois que vous intégrez les spectateurs dans une pièce de théâtre, Anne Salama ? Vous avez déjà fait d'autres expériences avant ?
Lors des festivals Rilke, on joue dans des chambres du Château Mercier. Et là, le spectateur est assez proche des acteurs, mais c'est la seule expérience en tant que metteur en scène que j'ai faite, oui.
Vous prenez seulement 15 spectateurs par représentation, avec 2 répétitions par jour. C'est pas vraiment rentable financièrement pour vous ?
Non, mais le théâtre n'est jamais rentable, donc nous avons des...
Donc foutu pour foutu, non, vous êtes dit on va en prendre 15 comme ça.
Non, mais il faudrait que le spectateur paye beaucoup plus cher sa place, donc c'est vrai que le théâtre est subventionné de toute façon. Nous jouons 2 fois par jour, donc c'est une jauge de 30 spectateurs par jour.
Journée.
Par journée. Et les coûts de production sont très bas, puisque les répétitions sont de 2 semaines contre 6 pour un projet normal.
Cette première pièce d'Éric Masseret sort aujourd'hui également sous forme de livre. La scène et la plume sont complémentaires dans ce cas-là.
Oui, puisque c'est un projet qui est né vraiment entre l'auteur et la comédienne et qui a passé de l'écriture au jeu jusqu'à arriver sur le bureau de Bernard Campiche, éditeur.
Vous jouez ce spectacle jusqu'à dimanche à Sierre. Vous allez tourner ensuite peut-être ailleurs en Suisse romande ?
Alors nous sommes une compagnie en résidence au théâtre du Crochetant à Monthey, donc nous jouerons dans la saison prochaine au Crochetant et espérons organiser une tournée en Suisse romande.
Est-ce que vous pouvez comme ça nous donner quelques profils types, on va dire, de ces personnages qui veulent que les spectateurs les ramènent dans le mode des hommes ? Quels sont les profils comme ça de ces principaux personnages ?
Il y a un personnage qui a tué et qui aimerait, qui est automatiquement mis au banc de la société et qui s'interroge sur l'innocence, la culpabilité, les coupables, les innocents, la justice, par exemple. Ou une personne qui souffre de prosopagnosie, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît plus les visages et qui donc n'a plus de place dans le temps non plus, puisqu'elle est isolée de son passé, n'a pas de futur et est emportée par le présent et aimerait que la personne en face d'elle lui rappelle quelque chose pour qu'elle puisse revenir dans le monde des hommes.
Et les participants donc doivent rester silencieux évidemment pendant la pièce.
Non, alors le spectateur, s'il veut réagir, il réagit. En principe, il n'a pas besoin de demander la permission, il le fait automatiquement.
Merci.
Et bon, c'est à nous de gérer l'intervention du spectateur.
Avec
dans le
pas
cadre
mal
du
donc,
texte.
D'improvisation aussi. Merci oui. Beaucoup Anne Salama d'être venue
Merci
en direct
vous.
Dans ce journal pour nous parler de ce spectacle Midi à l'ombre des rivières. Vous répondiez à l'invitation d'Yves Terrani. Bon après-midi à vous, merci.
Merci.
Un mot de la bourse pour vous dire qu'à la mi-journée, l'indice SMI est en baisse de 1,1% à 5787 points. Il est temps de prendre des nouvelles du ciel avec Stéphanie Koller.
La grisaille est tenace dans certaines régions. Entre le lac de Gruyère et Fribourg, en direction de Bâle, elle peine à se dissiper. D'ici la mi-journée, elle laissera la place à un temps bien ensoleillé. Sur la Riviera, le Chablais et en Valais, le soleil domine. Cet après-midi, le pays sera traversé de passages nuageux en provenance du sud, dans les environs de Genève, et sur le Jura, ils seront parfois plus denses. Température 15 degrés entre Nyon et Montreux, 13 à Yverdon et à Bienne et jusqu'à 18 en Valais. Le temps sera bien ensoleillé partout demain. Il y aura des brouillards matinaux dans la région de la Broye et des Trois-Lacs. D'ici la mi-journée, ils se seront dissipés. En cours d'après-midi, des nuages d'altitude traverseront le ciel depuis l'ouest. Il fera un peu plus froid sur l'arc lémanique et en Valais.
La météo avec VZ, le conseiller financier de votre retraite, vzch.com.
Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Demain, nous recevrons Maria da Silva, conservatrice de la Maison du dessin de presse à Morges, pour parler de l'exposition « Dessine-moi un mouton, le dessin de presse bête ». Ce journal sera diffusé dans quelques secondes sur Espace 2. Vous pouvez le réécouter sur notre site internet rsrinfo.ch. Il est 13h.